soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Sois numérique et tais-toi. L'émission qui, chaque semaine, aborde en moins de 10 minutes un sujet lié aux nouvelles technologies numériques et informatiques qui font notre quotidien avec notre consentement et parfois même malgré nous. Cette semaine, nous allons clôturer notre série d'émissions sur le stockage numérique des données. La semaine dernière, nous avons vu qu'en entrant dans l'ère du numérique, la mémoire accumulée par l'humanité au fil du temps s'appuie sur des supports de plus en plus fragiles. Mais bon, qui aujourd'hui se préoccupe réellement de l'avenir de l'humanité? C'est pour ça qu'après avoir parlé histoire, nous allons parler psychologie. Et nous allons voir comment le développement du stockage sur des supports externes a des effets considérables sur le plus important de nos muscles, notre cerveau. Alors, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, si je vous demande quelle est la préfecture de la Creuse, j'ai de grandes chances de vous pousser à utiliser un accès Internet pour consulter cette information. Or, ce comportement est nouveau. L'accès en ligne à la connaissance n'a jamais été aussi facile et nous fait réfléchir différemment. Avant de parler de ces changements, il faut déjà avoir conscience d'une chose. Notre cerveau peut être assimilé à un muscle, en ce sens qu'il se transforme en fonction de son activité. Les neurologistes parlent de plasticité cérébrale ou plasticité neuronale. Cette caractéristique correspond à la faculté de modification du cerveau durant la croissance jusqu'à l'âge adulte, mais également lors de phases d'apprentissage tout au long de la vie. Le cerveau est donc doté d'une capacité à créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et les connexions de ces neurones. Comparer le cerveau à un muscle permet de mieux comprendre cette plasticité, puisque plus on le sollicite pour certaines actions, plus il va se renforcer dans sa capacité à les exécuter. La semaine dernière, je vous parlais des chansons de gestes et de la diffusion des informations au Moyen-Âge par la tradition orale. En l'absence d'autres supports de stockage facilitant la diffusion d'informations, l'apprentissage de mémoire d'une grande quantité d'informations était donc très importante. Une étude de 2011, publiée dans la revue Science, a cherché à mieux comprendre les conséquences de l'usage d'Internet sur notre manière de réfléchir. Que se passe-t-il dans notre tête lorsque l'on sait qu'une information est disponible en ligne ? L'expérience relatée montre que les individus étaient plus nombreux à se rappeler d'une information enregistrée sur un ordinateur quand ils pensaient qu'il ne serait pas possible de retrouver l'information ensuite. Autrement dit, notre mémoire a tendance à ne pas retenir des éléments que l'on sait facilement accessibles. Mais l'expérience va au-delà, et les résultats montrent que notre cerveau, à défaut d'enregistrer une information disponible, va mémoriser la manière d'y accéder. On parle dans ce cas de mémoire transactive. Et tout le monde a déjà vécu cette situation que je trouve très agaçante. Plutôt que de retenir une adresse, par exemple montpellier.fr, une personne va vous dire « Tu tapes ville de Montpellier sur Google et tu trouves ». Mais restons calmes, je taperai sur Google lors d'une autre chronique. Ce type d'adaptation s'observe également dans la mémoire visuelle des choses que nous prenons en photo. Une expérience publiée en 2013 par une psychologue de Fairfield University a mené des individus dans un musée et a montré que le fait de prendre en photo les objets contribuait à moins les mémoriser. Bon, si l'on regarde cette évolution du cerveau, il s'agit simplement d'une adaptation très pragmatique à notre environnement. Un peu comme la perte des muscles qui nous permettait de chasser pour manger dans les temps anciens. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une grande masse musculaire pour aller au supermarché. Et notre corps évolue en conséquence. Et finalement, est-ce que la vie n'est pas mieux comme ça? Nous n'avons plus besoin de nous fatiguer à mémoriser les numéros de téléphone de nos contacts, leur date d'anniversaire, et si l'on veut se rendre quelque part, il suffit de chercher sur Internet et l'on trouve l'adresse. Et une carte interactive ou une voix sensuelle nous y guide par le meilleur chemin. Avec le développement des assistants vocaux, on n'a même plus besoin d'aller sur un ordinateur. Il suffit de commander par la voix pour accéder aux informations. Mais réfléchissons un instant. Est-ce que ces technologies d'externalisation de la mémoire affaiblissent notre cerveau? Ou, pour être plus polémique, est-ce que nos technologies numériques nous rendent stupides? Alors que l'on commence à prendre conscience que l'usage des écrans nuit au développement intellectuel des enfants, cela fait déjà plusieurs années que les cadres des entreprises de la Silicon Valley choisissent d'envoyer leurs rejetons dans des écoles dites « low-tech », c'est-à-dire dépourvues d'outils numériques. Les bons vieux livres, le stylo, le tableau noir et la craie. Clairement, cela sème le doute. Un livre d'un chercheur états-unien qui a failli obtenir le prix Pulitzer en 2011 pose directement la question en titre. Internet rend-il bête ? Je casse le suspense. La lecture du livre montre que notre intelligence est mise à mal par un usage intensif des objets connectés. Pour résumer l'idée, notre intelligence dépend de notre capacité à transférer les informations de la mémoire de travail, notre mémoire immédiate et fugace, à notre mémoire de long terme, qui est celle qui structure la pensée. Si nous ne faisons pas ce transfert, nous limitons notre capacité à développer un raisonnement complexe. Autrement dit, nous ne pouvons pas élaborer un raisonnement à partir de données externes à notre cerveau. Et comme l'explique un philosophe français, Bernard Stiegler, qui a contribué à l'ouvrage « Mémoire et oubli », un savoir n'est acquis et fertile que s'il est intériorisé. Et je cite, « Seule cette inscription dans la mémoire permet d'organiser les connaissances. » Ainsi, l'accès à la connaissance des millions d'articles de Wikipédia par des milliards d'humains ne nous rend pas plus intelligents. Avec l'illusion de tout pouvoir savoir, nous entraînons notre cerveau à savoir de moins en moins et cela diminue sa puissance. La baisse de notre capacité à mémoriser accroît notre dépendance aux données numériques externalisées. Et cela tend à affaiblir notre capacité à développer une pensée complexe qui nécessite de brasser ce qui se trouve dans notre mémoire à long terme. Alors, et nous dans tout cela ? Eh bien, maintenant que nous savons cela, est-il possible de limiter l'affaiblissement de notre cerveau ? Une réponse simple est « faites du sport ». Enfin, du sport cérébral. Sans nous compliquer trop la vie, nous pouvons faire le tri dans les choses que nous déléguons par habitude et que nous pourrions en réalité mémoriser. Plutôt que de confier son destin au GPS de manière systématique, beaucoup de trajets peuvent être pris en charge par notre cerveau. De même, essayer de se souvenir des choses plutôt que de chercher systématiquement en ligne permet de se muscler la tête. Mais au-delà de ces petits trucs, le plus important reste de protéger les enfants d'un usage intensif de ces nouvelles technologies. Car leur cerveau est dans une phase de formation qui les rend encore plus fragiles. Pour terminer cette chronique, je vais utiliser ma mémoire transactive pour répondre à la question qui vous tracasse depuis le début de l'émission. Ok Google, c'est quoi la préfecture de la Creuse ? Bref, ici s'achève cette série sur le stockage des données, et j'en profite pour remercier Pascal et Bill pour les conseils dans la rédaction de ces chroniques. Et je vous dis à la semaine prochaine.